sur Phare FM, il est 10h en ce dimanche 12 mai. C'est Matt pour vous accompagner jusque midi avec une belle célébration ainsi qu'un message. Suis-je réellement chrétien? La question que nous pose Samuel Katar Schmidt. L'église, la porte ouverte dans quelques instants. La louange avec Cieux ouverts, c'est tout de suite, même juste avant. Et là,
la Bible dit:
testez, examinez tout ce qui est dit avec soin. Retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible. FM.
Phare FM.
Chez vous, en voiture, au travail.
95.3.
De Ella sur Phare FM. Vous savez, cette croix, j'y reviens tous les jours personnellement. Elle m'aide à grandir, elle m'aide à me soulager de certains fardeaux et à me rappeler que Jésus est mon seul appui, ma seule source. Et c'est bon de pouvoir le déclarer en louange tout au long de cette matinée, tout en se posant des questions avec beaucoup d'humilité. Suis-je réellement chrétien? C'est ce que nous partage Samuel Peterschmidt de l'église La Porte Ouverte à 10h30. Ne manquez pas ce moment puissant sur Phare FM.
In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe in this broken generation.
Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations,
ouvertes au service des chrétiens persécutés.
Depuis l'arrivée au pouvoir des ayatollahs, les chrétiens d'Iran sont parmi les plus persécutés au monde, notamment les convertis d'arrière-plan musulmans de langue perse que l'on retrouve en nombre dans les prisons iraniennes. Ali et sa femme Zahra sont deux chrétiens d'Iran d'arrière-plan musulmans. Lorsqu'ils ont décidé de suivre Jésus, ils savaient que cette décision changerait leur vie pour toujours. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit arrêté et emprisonné. Ali se souvient avoir été emmené dans une cellule sans lumière, sans toilette et sans couverture pour y être battu et interrogé. Les autorités voulaient infiltrer l'église. Ali et Zahra ont tenu bon et ont finalement été libérés. Mais deux années de persécution, de harcèlement et de violence ont suivi. Personne ne voulait employer Ali. Leurs enfants étaient interdits d'école et les amis et la famille se retournaient contre eux. Ali et Zahra savaient qu'ils pouvaient être arrêtés et interrogés à tout moment. Ce sont les prières qui ont fait la différence. Le fait de savoir que des chrétiens du monde entier priaient pour eux a été déterminant. Ali témoigne que la prière était le seul moyen pour surmonter l'isolement de la prison. « Seul Dieu peut aller dans ces endroits sombres », affirme-t-il. « Nous faisons partie du corps de Christ où que nous soyons. » De sa cellule, Zahra sentait aussi l'amour fraternel et les prières. Elle savait que sans la puissance de Dieu, elle n'aurait pas pu tenir. Ali et Zahra ont fini par quitter l'Iran. Ils vivent aujourd'hui en Turquie avec leurs enfants Daniel et Samuel. Le couple guérit peu à peu du traumatisme de l'emprisonnement et des interrogatoires. Aujourd'hui, leur foi est plus forte que jamais. S'ils devaient revenir en arrière, ils choisiraient tous les deux de suivre Jésus à nouveau. Car même à travers toutes ces souffrances, le Christ ne les a jamais laissés seuls. Ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution que de suivre Jésus et qu'ils ne peuvent vivre sans lui. Louons Dieu pour la foi et le courage d'Ali et Zahra, et prions pour la sécurité et la guérison psychologique et spirituelle de ce couple. Continuons aussi de prier pour les nombreux chrétiens iraniens emprisonnés à cause de leur foi.
Portes ouvertes, ONG au service des chrétiens persécutés. Portesouvertes.fr.
Phare FM, une autre musique.
These are the days. atteint la gloire de ton ciel. Tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel. Tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire. Célébrant son amour, les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire.
FM, l'émotion partagée.
Nous te louons avec confiance. Ta présence. Heureux celui que tu choisis pour qu'il demeure. Yeah.
Atmosphère à l'instant dans ta présence sur Phare FM.
7h midi, dimanche, Phare.
Avec Matt.
Et sur Phare FM, un moment que j'aime particulièrement cette matinée, ce moment de message, d'encouragement par un des pasteurs d'une église de France. Aujourd'hui, on va du côté de l'Alsace avec le pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église La Porte Ouverte qui nous pose, qui me pose aussi à moi et à vous et à lui-même aussi, cette vraie question. Suis-je réellement chrétien ? Alors vous me diriez, mais ça fait des années, Matt, que je vais à l'église, que j'écoute la louange. Je suis même malade, là actuellement je peux pas y aller, donc je suis sur internet ou la radio. Et je me suis jamais posé cette question, j'ai plus besoin de me la poser. Je suis chrétien, je crois. Ah, et si seulement c'était si simple. Oui, c'est simple de croire, oui, c'est simple d'aimer Dieu. Mais suis-je réellement chrétien ? Nous pose d'autres questions, vous le verrez, tout au long de ce message impactant. En tout cas, Dieu vous bénit ce matin avec la louange que l'on retrouvera ensuite un peu avant midi. Belle matinée sur Phare FM.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On va se lever ensemble, les bien-aimés. Si vous voulez bien, on va faire silence dans la maison du Seigneur. Nous saluons les internautes. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes venus pour la communion fraternelle. Nous sommes surtout venus rencontrer notre Père aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me prendre un ré, s'il te plaît, ma sœur?
Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Et dit, mes genoux vont fléchir,
tout genou fléchira,
et que toute langue confesse,
toute langue confessera,
qu'il y a un seul Seigneur dans ce lieu. Encore Jésus-Christ.
Jésus-Christ.
Tu es Seigneur.
Est Seigneur.
Nous honorons ta présence dans ce lieu et nous déclarons que tu es Seigneur.
Il est sorti du
Tu es
tombeau.
Seigneur, tu es vivant,
Il
tu règnes éternellement.
Seigneur.
Et nos genoux fléchissent ce matin.
Tout genou fléchira.
Et nos langues confessent. Continue, tu peux commencer à louer le Seigneur et dire, je suis venu confesser que tu es Seigneur. Je suis venu reconnaître que tu es Seigneur. Je suis venu t'honorer comme Seigneur. Je suis venu plier le genou devant le Seigneur des Seigneurs. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche et commence toi-même à rentrer dans l'adoration. Ce n'est pas le groupe de louanges qui te fait rentrer dans l'adoration, dans la présence de Dieu. C'est ton cœur et ta disposition qui te font rentrer dans la présence de ton Père. Alors ouvre ta bouche et commence à le célébrer. Oui, nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous t'honorons en tant que Seigneur. Nous célébrons le Seigneur de ce lieu. Nous célébrons le Seigneur de nos vies. Seigneur internaute, Seigneur, mais aussi ton peuple réuni à Mulhouse. Nous joignons nos voix à celles des anges, à celles des archanges, à celles des saints, rassemblés à travers le monde, pour honorer le nom de Jésus-Christ. Nous disons, nous confessons que tu es Seigneur. Que toute langue en ce lieu reconnaisse que tu es Seigneur. Et que tout genou fléchisse et honore celui qui règne éternellement. Gloire à Jésus.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira,
et
toute langue confesse
que Jésus,
son nom est Jésus, tu es Seigneur.
Tout genou
fléchira, toute langue confessera
ne sommes pas là pour faire un spectacle, les bien-aimés. Et vous nous regardez avec tant d'attention. Je sais que mes sœurs derrière moi sont toutes jolies et toutes belles. Amen. Mais vous n'êtes pas venus nous regarder, vous êtes venus chanter. Amen. Vous n'aviez pas les paroles. Vous ne connaissez pas les paroles, mon pasteur. Mon cœur veut chanter. Le psalmiste dit à son cœur de louer l'Éternel, de bénir l'Éternel. Peut-être ton cœur est fatigué, mais il faut que tu dises à ton cœur, ce matin-là, tu vas chanter. Amen. Tu vas chanter pour ton Seigneur. Alors nous, on va pas chanter, nous, on va jouer. Et vous, vous allez dire, mon cœur veut chanter. Et ton cœur va chanter. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Oui? Est-ce que tu peux le dire, mon cœur veut chanter? Eh bien, chante-le maintenant. Alléluia. On vous entend. C'est une joie en tout cas, c'est une joie d'être là. J'étais en Guyane, les salutations de nos bien-aimés de Guyane. Amen. Nous avons une église à Guyane, en Guyane, à Cayenne, à Saint-Laurent. Et les bien-aimés se... Ah voilà, non, Mana. Mana? C'est pas grave, tout va bien. Ah Mana. Et les bien-aimés se lèvent à 4 heures pour nous suivre. Et ils suivent le culte. Et après, ils se préparent pour aller à l'église. Et nous pouvons les saluer, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut accueillir nos bien-aimés de Guyane? Nous vous bénissons. Merci pour l'accueil. Et merci pour ces moments que nous avons passés. Nous bénissons aussi tous les internautes qui sont avec nous.
Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait jour après jour. Nous bénissons Dieu de ce que nous pouvons annoncer l'évangile un peu partout. Que ce soit ici, que ce soit... au Portugal, je me réjouis d'annoncer l'évangile partout où le Seigneur nous permet de le faire. Ce matin, je voudrais juste en deux mots, l'autre jour j'avais touché juste un petit mot, puisque nous allons agrandir cette salle. Là, ce matin, il y en a beaucoup qui sont encore en vacances, puisque le mois de mai, c'est le mois des ponts. Bientôt, on pourra dire que le mois de mai, c'est le mois des vacances. Mais nous avons le désir, puisque lorsque nous sommes là ensemble en temps normal, la salle est pleine, et nous avons le désir d'agrandir. Alors, je vais juste vous montrer le plan. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Merci. Voilà. Actuellement, nous avons une salle qui fait 2500 places. Et vous avez l'estrade qui fait 146 mètres carrés. Nous allons passer d'une salle de 2500 places sans faire de grands travaux. Ce ne seront pas des travaux gigantesques, ce ne seront pas des sommes également énormes. Nous allons passer à une salle de 2820 places. Alors comment allons-nous faire? Le mur qui est là sur votre côté gauche va totalement disparaître. Il y a de ce côté-là des toilettes. Mais ces toilettes, normalement, ne devraient pas être utilisées depuis longtemps. On le fait juste à titre exceptionnel. Donc, tout ce mur va disparaître et nous aurons, simplement en faisant tomber ce mur, 300 places en plus. Juste un mur. Cela nous permettra d'accueillir plus de personnes. On en profitera pour augmenter également l'estrade et cela vous permettra d'amener des âmes au Seigneur. Évidemment, il y a l'infirmerie, il y a le poste de sécurité qui est là, mais ne soyez pas inquiets, nous avons déjà réfléchi pour que vous puissiez continuer dans les meilleures conditions à faire ce que vous faites admirablement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les remercier, tous ceux qui sont à la sécurité et tous ceux qui sont... au poste de secours, merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Voilà, le permis de construire a été déposé et c'est en cours. Et c'est en cours. Dis à ton voisin, je me réjouis qu'on agrandisse. Parce que c'est preuve qu'on gagne des âmes. Qui se réjouit qu'on agrandisse? Ok. Maintenant, dis à ton voisin, tu sais que tu as même le droit d'y participer. Ah ben c'est bien de se réjouir d'agrandir. Hein. Mais là, tu peux dire à ton voisin, tu peux y contribuer. En donnant quelque chose pour l'agrandissement, de manière à ce que, hop, eh bien, on puisse passer à autre chose et surtout nous concentrer sur l'essentiel. Alors évidemment, je sais, la question en suspens, c'est, et les parkings? Eh bien, écoutez, bien-aimés, nous avons regardé tous les parkings avoisinants. Il y a à peu près en tout 200 places de parking à 5 minutes de marche d'ici. 200 places. Tout ce que ça demande, c'est 5 minutes à pied. Vous pouvez venir déposer vos bien-aimés ici et le chauffeur repart tout seul. Mesdames, normalement, vous ne devriez jamais marcher. Vos maris vont venir vous déposer, vont vous ouvrir la porte, vont vous inviter à sortir. Vous pourrez vous installer, puis ils iront garer leur voiture. Et toutes les sœurs disent... Ah. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous réjouissons pour ce qui se passe. Nous voyons des hommes et des femmes venir de partout et se tourner vers le Seigneur, et c'est une grande grâce. Amen. Bien, ce matin, mon thème est très simple. Il se pose sous la forme d'une question: suis-je réellement chrétien? Cette question, je ne la pose pas à votre voisin. Cette question, je me la pose. Et puis chacun pourra se la poser. Souvent, pendant les prédications, je vois les épouses faire comme ça à leur mari. Ce matin, c'est interdit. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour nous individuellement. Le but n'est pas de mettre un poids sur quiconque ou de culpabiliser, loin de là. Le but, c'est de vous encourager. Le but, c'est de vous encourager. Parfois, le but, c'est de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Mais vous savez, quand vous devez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, les conseils qui sont donnés, c'est de surtout ne pas prendre la personne parce qu'elle se débat et elle risque d'assommer celui qui essaye de sauver. Donc le meilleur moyen quand vous voulez sauver quelqu'un, c'est de le tirer par les cheveux. Alors c'est vrai que ça fait un peu mal sur le moment, mais ça te sauve. Bon, il y a certains frères, pour les tirer par les cheveux, on va vous attraper avec une ventouse. Pap! Vous tirez comme ça. Ce que je veux simplement que vous compreniez, c'est que mon objectif ce matin, c'est de nous encourager. Lorsque un menuisier doit par exemple couper une série de planches, eh bien, en général, ce qu'il va faire, c'est un gabarit. S'il doit couper 200 planches de 1 mètre, il va faire un gabarit. Et toutes les planches qu'il va couper seront toujours, eh bien, mesurées avec le gabarit. Parce que le gabarit, il sait que celui-là, il lui a donné la mesure exacte. Si jamais il prenait la première planche, et puis il coupait la seconde, il prenait la seconde pour la troisième et la troisième pour la quatrième, au bout de 200, vous n'avez plus un mètre. Eh bien, ce matin, c'est le but de cette prédication. C'est revenir au gabarit de la parole de Dieu. De manière à ce que si jamais votre planche dépasse un peu, pendant la prédication, vous puissiez scier le bout qui dépasse. Et retrouver simplement le gabarit auquel nous sommes invités. Lorsque je lisais William Booth dernièrement, le fondateur de l'armée du salut, dont le visage va s'afficher ici, c'est Thibault dans 90 ans. Et... Il dira la chose suivante. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Je crains que William Booth ait prophétisé ce que nous vivons aujourd'hui. Je crains que, sans s'en rendre compte, William Booth a été prophétique dans ce qu'il a dit. Voyez-vous, j'ai le sentiment qu'entre les chrétiens du premier siècle de notre ère, dont vous avez là une fresque que je désire garder en arrière-plan pendant toute cette prédication, ces hommes et ces femmes prêts à mourir dans les arènes, dans des conditions absolument terribles. Et le christianisme aujourd'hui, accompagné d'une théologie très édulcorée, dont parfois même certains pasteurs font la promotion en se présentant, par exemple, dans un jet privé. On voit ces images aujourd'hui. Des pasteurs qui se présentent dans leur jet privé ou dans la limousine ou face à un tapis rouge. On n'a plus le sentiment que des serviteurs arrivent, mais des stars. J'ai le sentiment qu'entre ces chrétiens du premier siècle, dont on va remettre l'image, et ceux d'aujourd'hui, il y a un abîme. Quelque chose s'est passé. Le gabarit a été faussé. Petit à petit, nous nous sommes éloignés de ce que, eh bien, eux comprenaient sous le vocable chrétien. Aujourd'hui, sous le vocable chrétien, l'on peut mettre énormément de choses. Et c'est pourquoi mon premier point sera le mot chrétien. Suis-je chrétien ? Ça paraît déplacé de poser cette question un dimanche matin à un auditoire tel que celui ou tel que tous ceux qui nous suivent sur le net. Suis-je réellement chrétien ? Ça semble déplacé, mais quand vous voyez ces hommes et ces femmes dans l'arène, et quand vous comparez le christianisme d'aujourd'hui, ou quand on dit à un chrétien, il faut faire 500 mètres à pied, il vous dit, oh, je vais changer d'église. Alors que le jour d'avant, il se vante sur Facebook d'avoir fait 10 km pour son jogging. Pour son jogging, 10 km, c'est pas trop. Pour faire 500 mètres à pied, pour rejoindre le lieu où celui qui a créé les cieux et la terre lui donne rendez-vous, c'est de trop. Alors on me dit aujourd'hui, pasteur, mais le Seigneur est présent partout. Ah oui, il est partout présent où ses enfants le cherchent, mais il n'est pas là où il y a des fainéants qui ne cherchent qu'à satisfaire leur chair et surtout à faire le moins d'efforts possible. Il est présent partout. Certains me disent, si seulement il y avait une église plus proche de chez moi dans mon village, alors, bien sûr que je serais fidèle. Comment peux-tu dire ça devant Dieu? Alors que toutes les semaines, tu fais jusqu'à 80 km, un chemin pour aller au travail, 160 aller-retour, ça pendant 5 ou 6 jours de la semaine, juste pour ton pain quotidien, et tu n'aurais pas le moyen de faire 40 km pour aller dans la maison du Seigneur? Waouh! C'était pas tout à fait l'état d'esprit de ces hommes et de ces femmes. C'était pas tout à fait la mentalité de ces hommes et de ces femmes. Quelque chose s'est passé. Oui, je crois qu'il est important de se poser la question pour, eh bien, aller vers le modèle. Suis-je réellement chrétien? Le suis-je réellement? La question est d'autant plus vraie que je rencontre parfois des époux, épouses ou maris qui me disent, mais pasteur, entre celui que vous connaissez dans l'église et celui que moi j'ai à la maison, c'est pas le même personnage. Non, il chante, il prie bien. Mais à la maison, mes enfants sont contents quand ils rentrent en retard. Parce qu'ils nous terrorisent. J'ai été confronté à des enfants qui me disent le christianisme de mes parents, moi je les vois vivre, j'en veux pas de celui-là. Il y a un décalage. Un jour, mon cher papa faisait la visite à une sœur qui venait depuis des années à l'église et dont le mari était un croyant. Alors arrivé chez eux, il a pris un peu de temps, ils ont parlé ensemble et puis comme à son habitude, il a à la fin de la rencontre, il a prié. Et cet homme non-croyant, poliment, a accepté la prière. Et là, il dit, « Oh Seigneur, je te prie, permets que le papy Otto te connaisse, te rencontre, qu'il soit aussi un jour éternellement avec nous dans le ciel. » À peine eut-il terminé de prier, que ce dernier dit, « J'espère que le bon Dieu vous exauce pas. » Alors il dit, « Mais papy Otto, vous voulez pas être avec nous dans le ciel ?» Et il dit, « Ha ha !» 60 ans avec celle-là sur la terre. Vous la voyez pas quand elle casse les assiettes alors qu'elle fait des colères. Vous la voyez pas quand elle boude pendant des jours et qu'elle reste au lit et qu'elle fait plus le ménage. Vous la voyez pas. 60 ans ici, ça me suffit. Éternellement avec elle, très peu pour moi. Il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Nous sommes loin du gabarit et nous devons y revenir. Le mot chrétien n'est pas juste un titre, ce n'est pas non plus une appartenance culturelle, il est de culture chrétienne. Mais être de culture chrétienne ne fait pas de vous ni de moi un chrétien. Vous savez, des pays immenses comme les États-Unis où on dit qu'il y a 40% de chrétiens. Mais le pays ne reflète pas un pays où il y a 40% de chrétiens. Il y a 40% de personnes de culture chrétienne. Oui, aux États-Unis, il y a d'authentiques chrétiens. Comme en France, comme ailleurs, il y a d'authentiques chrétiens. Mais la culture chrétienne ne signifie pas que vous êtes chrétien. La culture chrétienne définit, un groupe sociologique auquel vous appartenez, qui a une certaine éthique et une certaine morale, en guillemets, parce que ça dépend aussi avec qui vous parlez. Mes amis, ce matin, pourquoi est-ce que je prêche là-dessus? Parce qu'il serait terrible de vivre dans l'illusion d'être chrétien pour entendre à la fin Jésus lui-même donner une sentence terrible, « Je ne vous ai jamais connu ». Il y a des moments où nous devons nous remettre en question. Frères et sœurs, vous vous surveillez au niveau de la santé. Vous vous surveillez à tous les niveaux. Vous faites des bilans. Vous vous surveillez au niveau du poids. Régulièrement, vous mettez la balance, vous vous mettez dessus pour vérifier. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils se sont mis dessus. La balance a eu un tassement de vertèbres. Vous vérifiez, vous contrôlez votre état de santé physique. Ce matin, je vous propose de contrôler notre état de santé spirituelle. Faire un bilan, pas pour que nous sortions abattus, mais pour que nous sortions en disant « Il faut que je remédie à ceci, il faut que je remédie à cela, il faut que ça change. » Et alors votre vie chrétienne, vous le verrez, deviendra merveilleuse. Alors qu'implique être chrétien ? Le mot chrétien n'apparaît finalement que 3 fois dans le Nouveau Testament. Je voudrais lire avec vous Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le terme chrétien provient du terme Christ, lui-même venant du grec Christos, lui-même traduisant le terme hébreu Mashiach. Et c'est important, qui signifie lui, celui qui a été oint d'une onction divine. Derrière le mot chrétien, il y a celui qui a été oint d'une onction divine. En fait, les chrétiens, dans l'Écriture, c'était des disciples qui avaient accepté les conditions pour suivre Christ. C'est ces gens-là que l'on a reconnus à Antioche. Et même si c'était un sobriquet au départ, puisqu'il signifie plus précisément « petit Christ » et qu'on l'utilisait plus pour se moquer d'eux, on les avait identifiés en les voyant vivre, non pas en les écoutant, en les voyant vivre. Ils s'identifiaient à celui qu'ils suivaient. Alors à quoi s'identifiait-il ? Matthieu 5, verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et vous connaissez ce sermon. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal